la masterclass d'Olivier Py avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass France Culture d'Olivier Py, enregistrée dans la cour de l'école des Ortolans à Avignon, alors que se déroule le 73e festival. Pour rappel, cette collection d'émissions a pour vocation d'essayer de savoir comment un artiste construit une œuvre, sans vraiment de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Elle et il nous racontent le processus de son élaboration, d'une masterclass à une autre, un ensemble de questions communes, même si on accueille des écrivains, des cinéastes, des plasticiens, des musiciens, des artistes, donc de toute discipline, c'est quand même toujours le même mystère qu'on essaye d'approcher, celui de la création. Quelques repères biographiques tout d'abord concernant Olivier Py, pour dire que vous avez eu un bac C, suivi d'Hippocagne et Cagnes au lycée Fénelon.
Ça date déjà.
Oui, mais bon, après l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Vous avez aussi étudié la théologie à l'Institut catholique. En fait, vous ne vouliez pas quitter l'école ?
Ouais, mais quand je réfléchis à tout ça, j'aurais surtout dû faire de la musique, et c'est mon grand regret. C'est la musique que j'aurais dû faire.
Mais pour avoir fait autant d'études, il fallait aimer être quand même dans cette position de celui qui reçoit un savoir, un enseignement.
Ah mais j'adorais travailler, même à l'école. Bon, les maths et la physique, c'était pas exactement mon truc. Mais j'adorais travailler, par contre. Travailler, pour travailler, j'adorais ça.
Mais en ayant suivi des enseignements variés, somme toute, est-ce que vous croyez en la vocation, Olivier Py ?
Ah oui, bien sûr. Non, totalement. J'étais, dès la plus petite enfance, destiné à la vie artistique et intellectuelle, alors même que rien ne m'y prédestinait dans ma famille ou le milieu dans lequel j'étais. Oui, certainement, oui, ça tombe d'en haut, oui, c'est sûr. Ça tombe d'en haut avec la souffrance, voilà. C'est la réponse immédiate à une souffrance dont on sait qu'elle ne sera jamais apaisée.
Vous parlez de la famille, de l'environnement, il y avait des livres quand même, il y avait des disques, il y avait...
Oui, il n'y avait pas rien, il y avait la télévision, il y avait des livres, il y avait des disques, mais enfin, c'est pas une vie parisienne, ma famille n'était pas une famille qui travaillait dans la culture, enfin, ils n'étaient pas non plus rétifs.
C'était quoi les livres dans la bibliothèque familiale ?
Camus, parce que mes parents étaient pieds noirs, donc... J'ai déjà dévoré Camus, parce que j'ai lu tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Camus d'abord.
On demande régulièrement aux invités de ces masterclass France Culture pourquoi ils ont choisi une forme d'art plutôt qu'une autre. Alors, vous concernant, on pourrait dire qu'Olivier Py, vous n'avez pas choisi. Il y a l'écriture, le jeu, la mise en scène, le théâtre, l'opéra, le cinéma, la musique. Maintenant, en fait, vous avez fait en sorte de ne pas choisir.
J'ai eu un professeur de philosophie en Hippocagne qui me disait quand on hésite entre deux choses, il faut prendre les deux.
Un bon enseignement, ça.
C'est un bon enseignement, mais c'est un enseignement difficile à tenir. Hein. Et qui s'oppose à l'idée que la philosophie, c'est le choix. Donc, si c'est le choix, c'est d'accepter la mort. Donc, quand on décide de ne pas décider, mais de ne pas décider non pas dans l'indécision, mais dans l'acceptation plus large encore, quand on devient un assentiment à tous les destins possibles, on fait un combat contre la mort. On essaie de croire que la mort n'existera pas. C'est un combat de prestige. On perd, mais on est content de l'avoir mené.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est premier quand même ? Est-ce que c'est l'écriture ? Est-ce que c'est l'envie de monter sur un plateau ?
Oui, c'est la scène. C'est la scène et le texte. Mais en fait, ça n'était pas, l'un et l'autre n'étaient pas séparés. Disons que, dès l'adolescence, j'ai perçu la scène comme le lieu même du poétique. Je ne sais pas si les adolescents le vivent de la même façon aujourd'hui, puisque moi j'ai eu la chance de faire des ateliers théâtre avec Mademoiselle Barrel en quatrième, mais très vite, sur scène, il ne s'agissait pas simplement de faire l'acteur ou d'exprimer des sentiments ou de parler de la société ou du monde, mais d'accueillir la parole poétique de manière tellement plus jouissive et incarnée que dans le papier.
Mais c'est un moment fondateur, la quatrième, monter sur une estrade et
je pourrais dire oui, mais enfin, dès la petite école, j'ai commencé à faire du théâtre. La première fois que je suis monté sur scène, je l'ai d'ailleurs mis, j'ai des images que j'ai mis dans le film, petit film que j'ai fait qui s'appelle Méditerranée, avec un montage de Super 8 de famille, et on voit la première fois que je monte sur scène pour jouer dans Le Petit Chaperon Rouge, et... Je ne fais pas de différence fondamentale entre ce que j'ai pu vivre à ce moment-là, dont je me souviens très bien, et ce que je vis encore aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous avez vécu il y a 31 ans, c'est la fondation avec Elisabeth Mazef de votre première compagnie. L'inconvénient des boutures. C'est quoi l'inconvénient des boutures, en fait, Olivier Pie?
C'est un poème de Max Jacob. Et au moment de poser les droits de la compagnie, j'avais ce livre-là dans ma poche. Je reste un amoureux fou de Max Jacob et j'ai tiré au sort un des poèmes de Max Jacob. C'est tombé sur l'inconvénient des boutures.
Créer une compagnie, ça répondait à quel besoin, envie, nécessité, désir?
Oh, il faut distinguer le côté administratif qu'il peut avoir là-dedans, qui n'a pas grand intérêt, au fait de rencontrer des gens de sa génération. C'est un conseil que je donne toujours aux jeunes que je rencontre. N'attendez rien des vieux, donc de moi aujourd'hui. Trouvez votre énergie de manière horizontale dans votre génération. Créez la dignité de votre génération. Et ça ne peut pas venir de vos pères, ni avec un E, ni avec un AI. Et en ce qui me concerne, d'ailleurs, j'ai eu très peu de contact avec mes pères. On s'est fait tout seul, mais moi, pas tout seul, parce que j'avais une bande autour de moi, la servante, on était 27 acteurs, de toutes générations confondues, d'ailleurs, mais enfin, principalement des jeunes. Et c'est ça qui n'en finit pas de renouveler le théâtre. La volonté d'une génération de dire qu'elle existe à la fois dans la rupture avec ce qui s'est passé, pourquoi pas, mais aussi dans l'héritage. Si une génération se contente d'être dans la rupture, comme a prétendu le faire la génération de 68, elle va ensuite reproduire des schémas de pouvoir. Justement, pour détruire l'héritage du pouvoir, il faut assumer l'héritage de la culture.
À propos de père, de mentor, peut-être, en fait, je ne sais pas qui ont été vos professeurs au conservatoire. Il n'y a pas eu de...
Alors, j'ai eu un père qui était une femme extraordinaire, qui était Madeleine Marion, qui était une égérie de vitesse, avec qui j'avais d'ailleurs des rapports qui n'étaient pas exactement des rapports d'élèves à professeurs, qui sont devenus très très vite des rapports amicaux. Puis, moi, j'étais quand même un très très mauvais élève au conservatoire.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que je n'y allais pas. Je venais une fois sur 10, j'étais pas du tout assidu, j'étais en train de faire autre chose, j'étais en train de travailler sur 1000 projets à la fois. Mais enfin, elle a été ma professeure et elle le disait elle-même. Vous verrez, quand je serai plus là, des années plus tard, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit. Et c'est vrai que je penserai très souvent à elle.
Alors, vous vous souvenez, Olivier Pie, de quoi? De ce qu'elle vous a dit?
Principalement de quelque chose qui devait venir de vitesse. Enfin, quand elle en parlait, je pensais que ça venait de vitesse, mais en réalité, je pense que c'est elle qui l'a appris à vitesse. La musicalité dans la parole. Et le lien qu'il peut y avoir entre la tragédie et la parole en quelque sorte chantée. Ce que Madeleine voulait apprendre à ses acteurs, il y en a eu beaucoup, beaucoup après moi, dont Jeanne Balibar, par exemple, c'est qu'il fallait chanter le texte, pas simplement le dire. Si on voulait arriver au tragique, la seule psychologie ne permettait pas de jouer Médée ou Phèdre. Il fallait atteindre à la musique, et c'est la musique qui permettait de faire entendre comment le destin individuel... explose pour devenir une conscience de l'humanité. Alors ça, c'est proprement de la musique. Et ça, je l'ai appris avec elle.
On a la musique des mobilettes dans les rues d'Avignon, mais ça, c'est l'atmosphère
du festival. C'est la beauté d'Avignon.
Hein, ah, oui. On a surtout les cigales.
Il y a des mobilettes là. Et des garçons bruns sur des mobilettes. Comment voulez-vous que je n'aime pas cette ville?
Ouais. Avant de venir vraiment au processus de création, encore un instant sur la biographie, Olivier Pie, pour dire qu'il y a quand même 21 ans que vous êtes directeur.
Oh, mais arrêtez mais
oui,
avec
non,
les
mais
chiffres,
je sais.
Ça fait mal. Hein.
Mais après, on parlera vraiment d'autre chose que de chiffres. 98, c'était la direction du Centre Dramatique National Orléans-Loiret-Centre. Il faut tout dire, sinon ça
faut
va pas.
Il faut tout dire, oui.
2001, Théâtre National de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. 2014, Festival d'Avignon, mandat en cours. Est-ce que votre fonction... alors? Certes, les lieux, les espaces ne sont pas pareils, mais cette fonction de directeur, est-ce qu'elle a évolué dans le temps pour vous? Est-ce que vous avez un rapport différent à cette question du pouvoir?
Ah bah oui, je pense que je le fais mieux qu'avant, ça c'est certain. Justement parce que je le fais de plus en plus dégagé de l'idée du pouvoir. Quand on est un jeune directeur aussi, on veut tout contrôler. C'est vraiment la faute des jeunes directeurs. Et puis j'ai appris petit à petit à déléguer. Il faut savoir le faire, mais en tant que metteur en scène aussi d'ailleurs. C'est quand on commence à sortir de toute idée de contrôle que quelque chose commence à apparaître.
Ah, on va y venir. Mais est-ce que vous avez appris dans les textes, parce que la question du pouvoir, vous l'avez souvent interrogée, mise en scène, écrite, de Schiller à Shakespeare en passant par Orlando ou l'impatience ou même les Parisiens. Est-ce que ça passe aussi par l'écriture, par la mise en scène, la façon de vivre le pouvoir?
Oh, metteur en scène, c'est un poste de pouvoir, c'est comme énorme, chef d'orchestre, c'est pour ça qu'il y a toujours autant d'hommes, évidemment. L'écriture, pas du tout. D'ailleurs, on le voit bien, il y a autant de poétesses que de poètes, et depuis longtemps. J'ai appris toute la violence du pouvoir, à mon niveau, bien évidemment, puisque je n'ai pas été roi d'Angleterre, mais enfin,
pas encore.
J'ai été roi de mon petit royaume, qui était mon théâtre chaque fois, et j'ai appris tout le mal que le poste de pouvoir pouvait faire. Aux uns, aux autres, aux amis. Oui, mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut pas être naïf avec ça. Le pouvoir est souvent très très dur à porter.
Alors, il serait impossible dans cette heure de Masterclass France Culture, Olivier Py, d'aborder tous les aspects de votre art créatif. Alors, moi, j'aimerais qu'on se concentre pour l'essentiel sur les textes que vous écrivez et mettez en scène. On est vraiment sur 100% Py. Avec cette question qu'on pose toujours aux artistes qu'on reçoit, d'où vient l'idée de départ d'un nouveau texte? Est-ce que c'est une image, une idée, un sujet? Est-ce que ça a évolué aussi avec les années?
Alors, il est rare qu'elle vienne, elle est souvent là. C'est-à-dire qu'elle est là souvent depuis 10 ans ou 15 ans. Je traîne des artefacts artistiques comme ça pendant des années. Et pendant des années.
Sous quelle forme ça traîne? Une pensée,
par exemple,
une note sur un carnet.
L'envie de faire une comédie, l'envie de faire une comédie légère, l'envie de travailler sur Princesse Malène de Grimm, ça n'est pas apparu d'un coup. Ça a mis 10 ans à émerger. L'envie de faire un roman très noir ou de faire un roman qui raconterait Paris, c'est pas une idée que j'ai eue du jour au lendemain. C'est des idées que je traîne très très longtemps et à un certain moment, elles s'imposent à moi. Je n'arrive plus à écrire autre chose que ça, et en même temps, je me dis que c'était une mauvaise idée. Alors, je traverse mon désert avec ma petite gourde, ou ma grande gourde, parce que la gourde, au fond, c'est les textes des autres. C'est l'admiration qu'on peut avoir sur d'autres écritures. Mais créer, c'est mourir, copier, c'est vivre, comme disaient Bouvard et Pécuchet. Donc, il y a toujours l'envie de copier une œuvre ou de faire ma version d'une œuvre.
Quand vous écrivez Les Parisiens, qu'est-ce qui vous nourrit?
Ah ben, le roman du 19e siècle, bien sûr. Enfin, j'allais dire comme Picasso, ça paraît immodeste. À la manière, je voulais dire, à la manière de Picasso. C'est-à-dire que, vous savez, Matisse, Braque, ils avaient peur quand Picasso venait dans l'atelier parce que... Comme son nom l'indique, il piquait tout. Il piquait tout, il le faisait mieux, en mieux. Alors moi, je ne dis pas que je le fais en mieux, mais c'est important, l'idée que je vais faire quelque chose à la manière de... Donc, faire un grand roman de 1000 pages qui raconte Paris, à la manière de Balzac, évidemment, mais aujourd'hui.
Comment ça se passe au niveau de l'imprégnation d'un sujet, la documentation, les lectures annexes, le temps de réflexion? Comment s'organise la maturation d'un projet? Alors, au-delà des 10 ans, mais quand on s'approche vraiment?
Non, mais tout dépend du texte et de la forme, puisque moi, je change presque de forme à chaque texte que je fais, à chaque livre que je fais. Il y a des sprints et puis il y a des marathons.
C'est contre le précédent, le nouveau projet, toujours?
Oui, souvent, avec des effets de retour, puisque je ne suis plus tout à fait jeune. Mais c'est souvent contre le précédent, oui, bien sûr. Mais il faut créer un dispositif... intérieur, psychologique, émotionnel et même spirituel qui est propre à chaque œuvre. Et c'est peut-être ça qui est difficile à mettre en place.
Mais est-ce qu'il y a une méthode de travail, Olivier Py? Est-ce qu'il y a des lieux, des horaires, des rituels?
Oui, j'ai une méthode qui est d'écrire tous les jours. D'écrire peu tous les jours.
Une heure
non,
précise.
Non, l'heure fixe, je ne peux pas me l'offrir, mais puisque j'ai une vie très très chargée. J'ai compris que si je voulais continuer à écrire en restant directeur et en faisant de la mise en scène aussi et d'autres choses, il fallait que j'écrive vraiment tous les jours 20 minutes. Alors, le meilleur conseil que je donnerais à des écrivains, à des jeunes écrivains, c'est pas rien. Si dans ta journée, tu n'as pas fait rien, c'est déjà une victoire. C'est la victoire, pas rien.
Et les 20 minutes de la veille, Vous en faites quoi? Les 20 minutes du jour, elles commencent par la relecture de la veille?
Non, jamais. Pendant un mois et demi, deux mois, selon les œuvres, j'entasse des 20 minutes. Et après, ça a constitué quelque chose de suffisamment solide pour que je puisse franchir l'aquabon. Et je peux relire. Et je me dis, bon, autant le finir, ce livre-là.
Il y en a beaucoup qui franchissent pas l'aquabon?
Oui, ça m'est arrivé quelquefois. Oui, ça m'est arrivé quelquefois. Pas franchir l'aquabon. Penser que je m'étais trompé. Mais c'est une bonne chose, sans aucun doute. Il ne faut pas oublier que la recherche du temps perdu s'est écrite parce que Jean Santeuil s'est arrêté. Donc il faut le prendre comme une étape. Mais ce n'est pas rien, aussi, un livre arrêté. Peut-être qu'on y reviendra.
Ça vous est déjà arrivé de revenir sur un texte arrêté quelques années avant?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça m'est arrivé. Je dirais particulièrement pour les œuvres légères, étrangement, ou pour les comédies. Parce qu'il faut arriver à trouver une mécanique qui s'approche plus de la perfection. Et quand on fait des œuvres longues, des œuvres lourdes, il y a moins besoin de cette mécanique qui vient des étoiles, hein, vraiment. La mécanique d'une comédie, ça tombe d'en haut. C'est au fond beaucoup plus spirituel que la déploration. Mais je crois que le rôle d'un poète n'est certainement pas de se contenter de la déploration ou de la lucidité. Et c'est ce que nous dit toujours le public. Il n'y a pas besoin de poète pour ça. Un bon journaliste peut suffire pour constater que le monde va mal. Nous devons apporter quelque chose qui est la transcendance ou un espoir de transcendance ou une intuition de transcendance. Et encore, transcendance, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle définition on donnerait à ce mot-là?
Vous donnez quelle définition?
Je dirais que la définition que j'en donnerais est essentiellement émotionnelle. C'est-à-dire que ça doit toujours dépasser les mots. Au fond, la seule définition qu'on pourra en avoir, c'est la joie. La joie, c'est l'accession au sens. Alors ça, comment le poète pourrait-il réussir à le convier, ou l'artiste pourrait-il réussir à le convier dans un objet de papier ou un objet de bois? Je ne sais pas, ça continue à m'émerveiller, je ne sais même pas si j'y arrive. En tout cas, si écrire devait servir à quelque chose, ça devrait servir à ça. Rappeler que les hommes, à certains moments dans leur vie, ont accès à quelque chose qui peut s'appeler le sens et que ça leur procure une joie qui dépasse toutes les joies de l'avoir.
Mais vous disiez tout à l'heure, Olivier Pic, après un texte long, un texte plus noir, vous avez envie d'une comédie et inversement. Mais ça ne se décide pas, l'état dans lequel vous allez être pour écrire?
Ah oui, mais
est-ce que ça se provoque un peu? Est-ce qu'il y a une mise en condition?
On peut écrire une comédie hilarante avec un chagrin d'amour. Hein.
C'est souvent le cas. Mais
En général, c'est le meilleur allié qu'on ait, un chagrin d'amour. Moi, comme j'étais très spécialiste...
Quoi qu'on écrive,
écrire sans chagrin d'amour, c'est malhonnête.
Il ne faut pas être heureux en amour pour écrire bien?
Être heureux en amour, ça fait province, hein, vraiment.
Non mais l'état, est-ce qu'il y a une mise en condition? Est-ce que, on parlait de la musique pour ouvrir, mais est-ce que par exemple il y a des musiques qui accompagnent des écritures, ou est-ce qu'il faut être dans un silence total?
Non mais il faut surtout se défier de l'inspiration. On écrit avec des mots et du travail, et pas seulement avec de l'inspiration.
Certes.
Donc il faut déjà se débarrasser de la mythologie de l'inspiration, de penser que la flamme de feu va descendre sur la tête et venir dans le petit café où on est.
Oui mais il y a de ça aussi, vous le disiez quand même. Il faut provoquer le fait que ça puisse descendre.
Oui, mais on ne sait pas à quel moment ça descend, ou à quel moment du texte la chose mystique est apparue, l'étincelle poétique. Donc il faut d'abord travailler son texte, travailler, écrire.
Mais la forme de l'œuvre, d'une œuvre après l'autre, les grands choix formels, là aussi c'est quelque chose qui va s'imposer quand vous avez accumulé les 20 minutes, vous avez passé l'aquabon.
Alors moi quand j'avais 20 ans, je rêvais d'écrire ma propre langue, hein. Voilà, c'est ce que je rêvais de faire. Je pensais que les grands écrivains inventaient une langue. J'ai donc fait des tas d'essais formels qu'aujourd'hui je juge un peu sévèrement.
Vous les avez gardés?
Hélas.
Ce sera dans votre pléiade.
Hélas, j'essaierai de les brûler avant de mourir. Mais un jour, j'ai écouté Genet qui disait que lui, au contraire, il écrivait en français. Dans le français presque le plus académique. Et si j'ose dire, je me suis essayé à ça. Et c'est là qu'on m'a dit « Ah, tu as trouvé ton style ». Donc il faut toujours penser à ça. quand on s'isole, c'est-à-dire quand on veut faire une œuvre qui serait à la fois inouïe, radicale, autoproduite et que sais-je encore, narcissique finalement, on va pas très loin. C'est notre capacité à entendre la voix de ceux qui ont parlé avant nous qui nous donne notre véritable personnalité d'écrivain.
Pour rester sur la question de l'écriture, Olivier Pine, dans cette masterclass France Culture, qu'en est-il des collaborations, des regards extérieurs? C'est aussi une question récurrente de ces masterclass. Et avant même de parler du travail de scène, et on va être amené à parler de Pierre-André Vetz, vous faites lire ce qui est en cours ou vous attendez un certain moment pour donner à lire à qui?
À Pierre-André, puisque vous l'avez nommé, oui, bien sûr, qu'on prénomme Pierrot dans le métier. Bien sûr, c'est la première personne à qui je lis mes textes depuis 30 ans. Et pas tout de suite.
À quel état, oui,
c'est ça. Pas tout de suite. Il les réclame souvent, fais-moi lire, ou lis-moi, mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite.
À quel moment? C'est le moment.
Au moment où je commence à en avoir marre, parce que... une œuvre est toujours inachevée. D'abord, l'art, c'est pas la perfection. La perfection n'a rien à voir avec l'art. La perfection, il faut laisser ça à la nanotechnologie. Non, l'art, c'est pas la perfection, c'est la vie. C'est la vraie vie. Ou la vie vraie. Donc, il y a un certain moment, je considère que le livre n'est pas fini, mais que je commence à être lassé de l'écrire. Vraiment, grandement lassé de l'écrire. Je vais plus avoir de force pour continuer. Et là, je peux commencer à lire à Pierrot, c'est mon premier lecteur.
Mais qu'est-ce que vous faites de son avis et des avis suivants que vous allez récolter, celui d'un éditeur aussi?
Je suis absolument les avis de Pierre-André, c'est la seule personne. Je partage ma vie avec lui et je suis en général scrupuleusement ses avis. Et d'ailleurs, il suit aussi les miens.
Est-ce que vous le trouvez suffisamment... comment dire? Quel est le mot qu'il faudrait choisir?
Je sais qu'il m'aime, c'est tout.
Ah oui, mais est-ce que c'est le meilleur lecteur, celui qui vous aime?
Oui, bien sûr.
Mais vous le disiez, c'est par essence inachevé, une œuvre, mais il y a quand même un moment où il faut l'envoyer à l'imprimerie, où il y a une première du spectacle, on va parler vraiment de l'élaboration. Qu'est-ce qui fait que vous êtes prêt à laisser cette œuvre découvrir le monde?
Ah ça c'est l'éditeur
qui vous impose des dates.
Du livre qui dit là ça ne va plus, il est temps.
Sinon vous ne le rendriez pas le texte?
Non, je ne suis pas particulièrement retardataire, mais je sais qu'il y a une date si on veut faire la composition, faire un livre. C'est passionnant d'ailleurs de faire un livre en tant qu'objet. Vraiment j'adore ça, travailler avec les correcteurs. Voilà, il faut respecter les délais, donc il y a un certain moment, je sais que c'est le moment. Et c'est pareil pour le théâtre. La générale arrive et la première arrive. Bon, ça n'est pas fini. Mais bien sûr que non, ça n'est pas fini. Ça ne sera jamais fini.
C'est jamais fini?
Non, c'est jamais fini. Non, non, bien sûr. Une œuvre est un être vivant. Et donc, elle n'en finit pas de grandir, de changer, de se transformer, bien sûr. Quand j'ai le malheur de relire des pages que j'ai écrites, je réécrirai évidemment tout.
Les livres, vous voudriez les réécrire parfois?
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Une fois que le texte... Si on parle dans le cadre du théâtre, là, cette fois, le texte est écrit, il est prêt, mais il va y avoir beaucoup d'autres étapes avant que le public ne rencontre ce texte. Il y a d'abord quoi? L'espace de jeu, là, on revient sur la collaboration avec Pierre-André Vetz, qui signe vos scénographies depuis bientôt 30 ans, plus de 25 en tout cas. Ça commence par l'espace de jeu? Ou ça commence par le choix des comédiens?
J'ai envie de dire oui et non. Parce que, évidemment, ça commence par un espace, une scénographie, mais quelquefois, l'absence de scénographie est en soi une scénographie. Donc, j'ai fait des spectacles très riches au niveau scénographique, des grands opéras dans des grandes maisons, très très spectaculaires, mais quelquefois, j'ai eu aussi envie qu'il n'y ait rien. Bien évidemment, Pierre-André est un petit peu grognon pendant un moment, quand je lui explique qu'il y aura juste un t-shirt et rien d'autre. Mais c'est suffisant pour fonder l'imaginaire de recherche du spectacle.
Ça, c'est le texte qui l'induit.
Pas forcément. Non, pas forcément. J'ai fait l'Oresti comme un grand spectacle spectaculaire, mais je pourrais reprendre l'Oresti demain avec seulement 4 acteurs et un tréteau, comme je l'ai fait après pour les pièces des Chiffres.
Ouais. Là, c'est de l'épure totale.
Oui. ce sont des projets différents. Là aussi, la continuité du travail n'est pas tout à fait linéaire. On revient en arrière, on revient à une idée qu'on avait eue, qu'on a abandonnée, qui a été commencée mais qui n'est pas allée assez loin, ou une chose qui avait fonctionné dans un spectacle qu'on a envie de déplier. Mais c'est vrai que j'ai cette collaboration avec Pierre-André qui est immense et on a l'impression de faire une œuvre ensemble et d'avancer avec... comme les plasticiens, d'ailleurs, avec des périodes noires, avec des périodes or, avec des périodes très sobres ou au contraire très chargées.
Le choix des comédiens, Olivier Pine, intervient à quel moment dans le processus ?
Pour moi, assez tard. J'ai toujours très très peur de quand j'appelle un acteur. Je réfléchis beaucoup, j'en parle aussi beaucoup avec Pierre-André. C'est un très très bon directeur de casting.
Qu'est-ce qui détermine vos choix ? C'est la rencontre humaine, c'est ce que vous avez vu d'un interprète sur une scène qui vous a fait vous dire que ce texte-là, c'était cette personne-là qui pouvait le porter ?
Ça sera peut-être mal compris, mais je crois à l'emploi. Je crois que nous avons un emploi. Je crois qu'une femme de 50 ans peut très bien jouer une jeune première. Ça ne pose aucun problème si elle a cet emploi. Je crois qu'un jeune homme peut très bien jouer un grand-père s'il a cet emploi. Et d'ailleurs, les jeunes acteurs me le demandent quelquefois. Mais moi, quel est mon emploi ? Est-ce que je suis un jeune premier romantique ? Est-ce que je suis un valet ? Est-ce que je suis une soubrette ? Et je crois très très fortement à cet emploi. Mais quelquefois, l'emploi ne va pas immédiatement avec la personne qu'on rencontre. Hein. C'est très très mystérieux ce que l'on devient sur scène. Et ça, c'est moi qui dois quelquefois voir ce que j'appelle l'emploi, dans la silhouette de quelqu'un qui se voyait plus comme un clown et que j'entends comme un grand tragédien. C'est un peu intuitif, bien sûr, mais il y a un peu de métier aussi là-dedans.
C'est quoi votre emploi de comédien, Olivier Pine ?
Moi, je suis un scapin. Et puis, il se trouve que j'ai joué beaucoup de rôles de femme. Ça m'est tombé dessus, parce que j'avais une ambiguïté sur mon genre quand j'étais jeune. J'en ai plus trop maintenant, mais j'ai gardé cet emploi-là. J'ai mis 50 ans à devenir cisgenre. Mais voilà, maintenant je le suis, voilà. Mon genre est plutôt masculin, mais j'ai mis du temps à l'accepter. Donc j'avais cet emploi de femme, je jouais beaucoup de femmes, même au conservatoire, même avec Madeleine, j'ai travaillé Phèdre, j'ai travaillé des tragédiennes. Et par ailleurs, j'étais un scapin, j'avais le spinto, l'énergie nerveuse pour être un scapin.
Alors, on revient au processus de travail, encore une fois, ce qui est l'objet de ces masterclass, Olivier Pie. Une fois que le texte est là, l'espace de jeu est là, les comédiens sont choisis. Le temps des répétitions, est-ce qu'il commence par un travail à la table, comme on le dit, c'est-à-dire comment on s'assoit et lit le texte, ou est-ce que c'est tout de suite le plateau ?
Jamais, je déteste le travail à la table.
Pourquoi ?
Le théâtre est une manière de penser, très différent de la pensée intellectuelle, discursive. Alors... à l'époque où je faisais du travail à la table, parce que je croyais qu'il fallait le faire, on élaborait toutes sortes de questions, et puis quand on montait sur le plateau, on n'était pas beaucoup plus avancé que des universitaires qui auraient travaillé, qui auraient fait un beau travail, mais finalement, on n'avait pas pensé avec nos pieds. L'aventure de ma vie, ça n'est pas l'intellect, c'est de sortir de l'intellect. C'est bien pour ça que je suis allé au théâtre, que je suis allé dans le chant, et peut-être vers le travesti aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a tout fait pour sortir de l'intellect. Je vois quelquefois des troupes qui, elles, au contraire, ont soif de rentrer dans la vie intellectuelle. Mais ce n'était pas mon cas. Je voulais surtout essayer de m'en débarrasser un peu. Pour ça, on monte sur le plateau tout de suite. Et c'est le théâtre qui produit l'herméneutique. Ce n'est pas une herméneutique intellectuelle. C'est une herméneutique théâtrale. Elle est d'un autre ordre. Voyez, par exemple, le travail que je fais avec les détenus sur Macbeth. Je pourrais passer des heures à parler de Macbeth. Traduit le texte, j'ai fait l'adaptation et je croyais comprendre quelque chose de la pièce. Mais dès le début des répétitions avec eux, c'est eux qui m'ont donné à entendre la pièce comme je ne l'avais jamais entendue et qui m'ont fait entendre des choses que je ne soupçonnais pas dans le texte.
Est-ce que veut dire quand vous arrivez pour le premier jour de répétition, vous n'avez pas parlé avec les interprètes de leur personnage, vous n'avez pas de grandes idées de l'arc narratif dramaturgique ? Alors, ça doit venir vraiment du plateau ?
Il faut distinguer deux choses. La direction d'acteur et la mise en scène. Ça peut être lié, et d'ailleurs les Français ne font pas vraiment la différence. Plus exactement, les Français font très peu de mise en scène, ils font principalement de la direction d'acteur. C'est la tradition française, et les Allemands font principalement de la mise en scène et très peu de direction d'acteur. Ils ne comprennent pas comment il peut y avoir une mise en scène où les gens sont immobiles et qu'ils ne travailleraient que sur le rapport au dire ou sur la psychologie. Je suis devenu allemand avec les années et je fais d'abord de la mise en scène. Et c'est la mise en scène qui déterminera la direction d'acteur. C'est-à-dire c'est complètement à l'envers de ce qu'imaginent la plupart des jeunes acteurs qui s'imaginent qu'on va travailler sur l'architecture psychologique de leur personnage et qu'ensuite on fera le spectacle. C'est exactement l'inverse. Donc moi, je travaille comme un peintre à la fresque, à main levée, et dès le premier jour, je dessine une mise en scène. Ce qui fait que la mise en scène du spectacle, elle arrive pour un spectacle de 2 heures au bout de 5-6 jours. Et elle est faite. Ensuite, il n'y a plus que du coloriage à faire. C'est le plus difficile. On fait 90% du travail dans les 5-6 premiers jours, en ce qui me concerne. Et ensuite, il faut le petit plus qui quelquefois peut mettre 3 semaines ou 1 mois. Mais une fois que la mise en scène est créée, les idées de mise en scène, les déplacements, le rapport avec le décor, les costumes et tout ça. Alors là, on peut commencer à s'interroger sur comment on le joue. Mais on s'interroge avec beaucoup plus de force parce que la mise en scène a déjà donné beaucoup d'indications de jeu. Hein, je me rappelle que j'avais dit un jour à Michel Faux quand il entrait en scène, non, ce qui serait bien, c'est que tu rentres dans cette scène avec des chaussettes mouillées. Et il m'avait répondu, ça m'aide. Alors, ça m'aide en opposition à quoi ? À tout le baratin intellectuel que j'avais fait avant, où j'avais vomi tous les livres que j'avais lus, et qui ne lui servait à rien. Par contre, ça lui donnait une indication de jeu formidable. Alors, mettre des chaussettes mouillées à un acteur ou autre chose, c'est une indication de jeu. Bien évidemment, si jamais il y a du bruit, par exemple, et que dans la scène, dans la mise en scène, il y a quelqu'un qui tape sur des casseroles, ça va changer le jeu aussi. Il va falloir porter la voix, il va falloir travailler autrement. Donc mon esthétique du jeu, elle est exprimée d'abord dans la mise en scène. Mais ensuite, il y a une esthétique du jeu, et en ce qui me concerne, c'est ce qu'on appelle le jeu lyrique.
Mais on parle beaucoup aussi, certains en parlent d'acteurs créateurs. Est-ce que vous êtes en écoute, en attente de propositions aussi qui viennent de vos comédiens ?
Le mot créateur, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Les créateurs, c'est des gens qui font des brosses à dents pour le capitalisme 2.0, qui font des objets designés, ça m'intéresse vraiment pas. Hein. Non, vraiment pas. Non, je préfère être un artisan qu'un créateur.
C'était votre réponse, on l'aura compris. Écrire pour le jeune public, comme vous l'avez fait pour cette édition 2019 du festival, Olivier Piste, un axe fort, un axe ancien dans votre travail.
Oui, bien sûr, surtout pour un grand pédophobe comme moi. Donc il est clair que j'écris beaucoup plus pour l'enfant que j'ai été et que je voudrais redevenir que pour des enfants que je ne connais pas. J'ai pas d'enfants autour de moi, j'ai pas d'enfants dans ma vie. Je suis heureux de voir qu'ils sont au spectacle, mais j'ai pas énormément de dialogue avec eux.
En tout cas, ça c'est une récurrence.
Je suis très loin du monde des enfants.
Oui, mais c'est une récurrence dans votre parcours, ce travail-là.
Oui, mais l'enfance est très présente dans ma vie. Je peux être extrêmement régressif et j'en ai même besoin, encore une fois, sortir de l'intellect. Mais pas particulièrement les enfants. Disons que écrire pour les enfants me permet de faire des choses que les adultes n'accepteraient pas, comme par exemple de la philosophie, des grandes questions. Alors, pour une fois, les critiques ne disent pas « Mais pourquoi utilise-t-il tous ces grands mots ?» comme avait dit une critique. « Pourquoi j'utilise ces grands mots ?» C'est les mots de mon quotidien, vous savez. Le mot mort, le mot miséricorde, le mot transcendance, ce sont les mots de mon quotidien. Mais alors ça, je peux le faire quand je travaille pour les enfants. Puis je peux faire des happy ends quand je travaille pour les enfants. Les adultes acceptent dans la mesure où c'est un spectacle pour les enfants.
Alors, pour enfants, moi j'aime bien dire tout public, parce que je trouve que quand c'est de qualité, c'est le cas. Mais au-delà du jeune public, il y a aussi, ça recoupe un peu votre fonction, votre rôle de directeur. C'est quand même la préoccupation du public et de tous les publics, Olivier Pie. C'est quand même une constante de votre parcours.
Je pense que c'est le rôle d'un directeur du théâtre public, de travailler sur le public. C'est notre devoir le plus impérieux. C'est d'abord notre devoir, c'est le public. Que le public soit présent, que le public ne soit pas trop exclu, trouver de nouveaux moyens de briser l'auto-exclusion, les habitus qui éloignent certains publics du théâtre, créer un public. La subvention, puisqu'on nous appelle quelquefois le théâtre subventionné de manière un peu goguenarde, la subvention subventionne le spectateur, d'abord le spectateur. S'il n'y avait pas de subvention, il n'y aurait pas des places dans la cour du Palais des Papes à 30 euros. Mmh. Elles seraient à 150 ou 200 euros. Mmh. C'est ce qui se passe dans d'autres pays, c'est ce qui se passe dans d'autres formes d'art.
Mais là, j'allais pas dire le créateur, l'auteur donc, que vous êtes, quand il écrit pour le jeune public ou pour tout le monde, c'est quand même aussi se dire ça va toucher de telle manière telle personne. Comment est-ce que vous pensez au futur lecteur, au futur public quand vous écrivez? Est-ce que ça occupe une part de votre esprit?
Bon, là, je parle vraiment d'artisan. J'y pense pas du tout. Ce serait la catastrophe si j'y pensais. C'est comme le mille pattes qui se demande comment il va marcher avec toutes ses pattes et qui tombe. Donc il faut certainement pas y penser. Non, il faut être à la recherche de sa joie la plus intime et c'est probablement le meilleur fanal pour traverser toutes ces brumes de l'écriture et de la création.
Ah, mais c'est là qu'il y a quand même une tension ou une partition de l'être Olivier Py entre un directeur qui pense à tous les publics et un auteur, un artiste, un poète qui n'y pense surtout pas.
Non, le directeur non plus n'y pense pas en ces termes-là. Non, je ne sais pas du tout ce que le public va apprécier. Je ne sais pas du tout ce que le public est capable de voir ou pas. Il y a beaucoup de spectateurs qui sont beaucoup plus puissants que moi au Festival d'Avignon. C'est eux qui me donnent une leçon très très souvent. C'est eux qui comprendront une œuvre que moi je n'aurais pas comprise. Je ne peux avoir aucune position de surplomb.
Non, mais vous avez le souci du public, c'est ça que je voulais dire.
J'ai le souci du public, bien évidemment, mais je crois que j'honore le public en leur proposant des œuvres difficiles. Et je n'ai aucune position de surplomb, je ne prétends pas en savoir plus qu'eux, certainement pas. Et j'ai abandonné toute idée de je ne sais quoi, de d'éveiller les consciences. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis au service du public. Je suis le serviteur du public. Je dois donner les conditions pour que la rencontre entre les poètes et le public ait lieu, sans pouvoir absolument rien présumer de comment ça arrivera.
On revient au processus de travail, Olivier Py. On a évoqué quelques autres auteurs, mais comment est-ce que les autres textes théâtraux et non théâtraux nourrissent votre travail?
Ah ben, je vous l'ai dit, c'est le seul allié qu'un écrivain puisse avoir quand il traverse l'aquabon. Alors évidemment, quand on lit Shakespeare, ça provoque aussi de l'aquabon. À quoi bon ? Tout disparaîtra, tous les livres disparaîtront. Il y a déjà Shakespeare. Mais quand on lit encore un peu plus Shakespeare, malgré tout, ça donne des forces mystérieuses pour faire que dans son temps, on ait une parole qui soit celle de son temps, qui sera ce qu'elle sera, qui vivra le temps qu'elle vivra avant de disparaître dans l'oubli. Donc les textes des autres, pour moi, des poètes vivants ou des poètes disparus, de ceux que je fréquente depuis très longtemps ou de ceux que je découvre, c'est la seule chose qui m'aide à écrire. Vous voyez, par exemple, j'étais un peu hyperbolique à la sortie du spectacle de La Maison de Thé de Wang, parce que je pense que c'est lui qui a écrit le texte, c'est un texte contemporain, d'après La Maison de Thé de Lao She. Et je lui ai dit, tu m'as donné envie de faire du théâtre pendant 10 ans. Je sais vraiment quelle énergie je vais pouvoir puiser dans ce spectacle, dans cette écriture et dans l'œuvre de cet homme pour les 10 années à venir.
Mais justement, comment les autres arts aussi, pas seulement le théâtre, mais donc la musique, la peinture, le cinéma, comment est-ce que ça nourrit aussi?
Ah, moi, je suis omnivore. Je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse, mais je m'intéresse à absolument tout, tous les arts. Ça a toujours été comme ça. La musique peut-être plus que tout, puisque je suis un si mauvais musicien. Donc, j'ai une tendance à romantiser, à mythifier évidemment le monde musical.
Alors je vous ai pas demandé d'ailleurs comment s'est passé le travail de composition musicale pour L'Amour Vainqueur que vous présentez dans cette édition 2019. Parce qu'on voit texte, mise en scène, musique, Olivier Py.
Laborieusement.
Vous jouez d'un instrument vous-même ?
Oui, je joue du piano. Je joue très 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 mal du piano, mais suffisamment pour pouvoir m'aider à composer un peu des chansons. C'est vraiment sans prétention. Mais c'est ce que je voulais aussi. Je voulais faire une musique facile. C'est quelquefois difficile d'ailleurs de faire une musique facile. Mais je voulais faire une musique facile et je me suis dit que comme je n'étais pas très bon musicien, ben je ferais sans aucun doute une musique facile.
Mais facile au sens de entraînante, entêtante. On a l'impression qu'on a déjà entendu certaines des chansons.
Voilà, harmoniquement, on a des surprises mais pas trop. On a surtout ce qu'on attend. Et elles sont un support évidemment... à l'écriture, je m'adresse aux enfants, mais c'est une œuvre qui doit être facile d'écoute. On doit avoir l'impression qu'on la connaît déjà quand on l'entend. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une ouverture dans laquelle on fait entendre tous les thèmes. Ça sert à ça. C'est le principe. Je pense que l'écriture de l'opérette, même si c'est beaucoup plus savant que ce que j'ai fait, ou l'écriture de certaines chansons, c'est un travail mystérieux. Entre la facilité, l'inconscient collectif et finalement la volonté d'atteindre par une musique simple autre chose que ne peut pas de la même manière la musique savante. Vous voyez, je suis très ému à l'idée que Jean-Jacques Rousseau a écrit un opéra qui s'appelle Le Devin de Village et que Rameau considérait vraiment comme de la crotte. mais en même temps, ce qu'a écrit Rousseau, c'était peut-être l'origine de la pop, de la comédie musicale, d'une musique qui est plus facile. Une musique qui est plus facile et qui donc est un vecteur beaucoup plus immédiat d'émotion.
Il y a une émotion particulière à la création de ce spectacle pour vous, avec cette musique d'Olivier Py quand même ?
Ah ben, bien évidemment, puis surtout j'avais des très très bons musiciens dans la troupe, bien meilleurs que moi, et donc... voir naître cette musique, les entendre travailler, bien sûr, l'émotion musicale était présente probablement de manière plus forte que d'habitude au théâtre. Après, quand je fais de l'opéra,
voilà, et c'est pas vous qui écrivez la musique.
Et que je vis, non, c'est pas moi qui réécris la musique, fort heureusement. Mais quand je vis 2 mois avec Wagner, c'est sûr que on a du mal à s'en remettre.
Mais pour revenir quand même sur les moments importants, les jalons, il y a des spectacles qui sont quand même plus importants que d'autres, Olivier Py. Alors, L'Amour Vainqueur l'est de cette façon-là pour la musique, mais vous aviez déjà dit que peut-être le premier spectacle important, c'était La Servante en 1995. En quoi ce spectacle-là, il a été un moment si fort ?
Parce que... C'est par ce spectacle que je me suis fait connaître du public, d'un plus large public. Je crois que dans notre génération, il disait qu'il y avait un retour du possible. Comment le spirituel s'inscrit dans la parole d'un poète. Il faut replacer dans le contexte de l'époque où il n'y avait pas tellement d'auteurs metteurs en scène, encore moins d'auteurs qui voudraient écrire une pièce lyrique qui durerait 24 heures. Le théâtre, l'écriture théâtrale était en studio, était très minimaliste. Elle était sociale et minimaliste. Et c'était pratiquement que ça. Donc, d'un seul coup, il y a un jeune homme et ses copains qui disent non, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas éveiller la conscience, on ne veut pas peigner éternellement la girafe du néo-marxisme. Nous, on veut lancer une grande flamme dans le temps et dire que rien n'est mort de l'aspiration spirituelle. Et on va le faire à 30 et on va le faire jour et nuit. Alors oui, ça a marqué, peut-être en dépit de certaines faiblesses du texte, ce geste-là peut-être a ouvert quelque chose.
Les autres spectacles qui sont pour vous des moments importants quand vous regardez un peu en arrière, ce qui vous arrive rarement, je le sais.
Il y en a eu tellement.
Ah oui, vraiment ?
Bah, il y a eu 40 opéras, il y a eu plus de 70 spectacles.
Il y en a qui...
Ça fait beaucoup.
Qui font passer à un autre niveau, je ne sais pas comment le dire autrement.
Oui, les enfants de Saturne, par exemple à l'Odéon, qui est un de mes derniers spectacles à l'Odéon, je croyais vraiment avoir accompli l'œuvre qui me justifiait sur Terre, voilà, à la générale. Et ça a été probablement le spectacle le plus unanimement conspué que j'ai jamais connu, y compris d'ailleurs d'une partie du public. Il ne faut pas s'imaginer que le public rattrapait la critique. C'était le cas dans d'autres spectacles, mais pas dans celui-là. Donc ça a été mon plus gros échec. Et en même temps, le lendemain d'un jour où je pensais enfin avoir fait une œuvre valable. C'est fou, hein ?
Peut-être, du coup, c'est une question qu'on pose dans ces Masterclass France Culture, mais votre rapport à la critique, est-ce que ça vous importe, ce qu'on écrit sur vous, ce qu'on
je
dit
de vous,
Olivier
Pie ? Je suis désolé de blesser les critiques, mais je ne lis jamais aucune critique. Je connais tous les critiques qui écrivent, je les connais personnellement, donc c'est leur avis personnel que j'entends, et je ne le lis pas.
Mais vous avez arrêté un jour ou vous n'avez jamais lu ?
Non, j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années, totalement, absolument, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, je ne lis rien. Je remercie les amis d'ailleurs qui ne me font pas part des lectures qu'ils ont faites, des critiques que j'ai.
Parce qu'il y en a d'autres qui ne s'en privent pas, j'imagine.
Il y en a d'autres qui ne s'en privent pas. Et je pense que c'est salubre. Voilà. Mon métier n'est pas de juger les autres. Si certains veulent faire ce métier, qu'ils le fassent, mais ça ne me concerne pas. Et je n'apprends rien dans ce jugement.
Votre public, quand vous voilà, rencontrez des gens, il y a beaucoup
ça,
de rencontres.
Ah, mais ça, c'est tout à fait autre chose.
Qu'est-ce que vous attendez de cet échange ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ?
C'est magnifique parce que autant de personnes, autant de spectacles différents. Alors, ce qu'a vu l'un n'est pas ce qu'a vu l'autre. L'aspect kaléidoscopique de la lecture d'une œuvre, ça, c'est tout à fait passionnant. Bon, j'essaie d'éviter les fâcheux parce que on en a toujours. Hein. Il y a toujours des gens qui vous attendent pendant une demi-heure sous la pluie pour vous dire qu'ils détestent tout ce que vous faites, qu'ils ont vu tous vos spectacles et qu'ils les ont tous détestés. C'est merveilleux. Je leur conseille en général du Xanax.
Est-ce que vous imaginez qu'un jour il puisse ne plus y avoir de nouvelle œuvre, que ça puisse s'arrêter, se tarir ?
Non. Non, ce n'est pas imaginable pour moi. C'est ce qui fait ma vie. Ma vie n'aurait plus aucun sens, j'arrêterais de vivre. Mais je peux me contenter de très peu. Et c'est probablement des choses que j'ai apprises avec Pierre-André. On met autant de soins à faire un petit spectacle de marionnettes de 20 minutes qu'à faire un opéra de Wagner. Il n'y a pas de différence fondamentale. On peut travailler pour les enfants sur des petits objets. C'est tout aussi passionnant. On a autant de jouissance et on a autant d'angoisse que quand on fait un grand opéra. Donc ça, c'est vraiment important. Je sais que lui ne s'arrêtera jamais et moi, je ne m'arrêterai jamais.
Qu'est-ce qui vous est le plus difficile ?
Le plus difficile pour moi, c'est de quitter un spectacle. C'est le deuil. Et il se trouve que en tant que metteur en scène, ça arrive souvent à la première. Et c'est toujours un moment très douloureux. Les acteurs, ils vont continuer. Si je suis sur scène, je continue, je participe. Mais ce moment où je ne sers plus à rien, qui est un moment de deuil, oui, souvent. Et puis la dernière d'un spectacle. Ce sont des moments de deuil très difficiles, avec des équipes qui se séparent, des gens dans le monde du lyrique, on ne sait même pas si on les reverra un jour. On a passé 6 semaines ensemble, comme si on était une famille. Passionné et on se quitte. C'est assez douloureux.
Mais du coup, il y a quand même l'envie de retrouver, alors c'est plus facile au théâtre, des comédiens, un certain temps, parce qu'il y aurait une idée d'un cycle quand même, on peut travailler, je ne parle pas de Pierre-André Vetz, mais avec les gens, un certain nombre d'années, et puis il faut renouveler le plaisir, le désir.
Bien sûr, heureusement qu'il y a des fidélités, heureusement qu'il y a l'amitié dans ce métier qui est quelquefois très dur, qui est même violent, particulièrement à Avignon. C'est probablement l'endroit le plus terrible, le plus violent, le plus cruel qui soit, c'est Avignon. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime, mais c'est très très cruel Avignon pour les artistes.
À propos d'artistes, vous en avez évoqué quelques-uns, Olivier Pie, mais comme on s'achemine vers la fin de cette masterclass France Culture, quand de jeunes, alors c'est pas la même chose s'ils sont comédiens ou s'ils sont auteurs, mais quand des jeunes gens viennent vous voir, vous demandent des conseils, alors vous disiez, il faut au moins faire une chose dans la vie, c'était quoi la formule que vous employiez tout à l'heure quand vous disiez écrire 20 minutes, c'est-à-dire il faut pas...
Pas rien.
Deux
mots,
c'est
pas
ça
rien.
Vraiment le... C'est du Beckett, là, quasiment.
Oui, c'est du Beckett. Beckett disait bon qu'à ça. Bon qu'à ça, ça me va.
Pas rien.
Oui, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Pas rien. Il va y avoir des forces en présence dans la journée qui vont nous éloigner du geste d'écrire. Alors, si on y arrive même un peu, si on n'a pas rien fait, on a déjà gagné. C'est comme ça. C'est en se disant encore aujourd'hui pas rien. Qu'on arrive à faire une œuvre. Et puis quand on se retourne, qu'on a 54 ans comme moi, on se rend compte qu'on a publié 30 livres, qu'on a fait plus de 100 spectacles, dont 40 mises en scène lyriques, qu'on a traversé des plateaux, des théâtres, simplement parce que chaque jour on s'est dit, allez, pas rien.
Ouais, mais alors du coup, quand vous donnez ces chiffres, ça donne un peu le vertige, vous dites, j'en ai trop fait ou pas assez ?
Pas assez. Non, j'ai pas assez travaillé dans ma vie. Pas assez, non, pas assez.
Jamais assez ?
Oui, je reste assoiffé d'art, de rencontres, d'intelligence incarnée, c'est encore autre chose, de cette vérité qui apparaît dans un visage. Moi, je voulais la vérité dans un visage et un corps. C'est ça, le théâtre.
Mais il n'y a pas un danger à en faire beaucoup ? Je ne dis pas trop, mais beaucoup, parce qu'on voit certains de vos... confrères,
mais c'est ce sœurs. Qu'on dit, c'est ce qu'on dit mes détracteurs souvent. Il fait tout mal.
Écoutez. Non, mais sans aller jusque-là. Quand on fait beaucoup, est-ce qu'on peut tout faire au mieux de ce qu'on peut faire ?
J'essaie. Oui, j'essaie. Non, mais c'est une étrange mathématique quand on aime travailler au-delà de ses forces. Ce que je fais depuis 30 ans, quand on veut toujours le dépassement de soi. C'est une étrange mathématique, parce qu'à la vérité, plus on en fait, plus on a possibilité d'en faire. Et au contraire, il y a une sorte de dystopie de l'âme qui se met en place quand on se met à douter, à ne plus pouvoir agir. Et moins on en fait. Alors bien sûr, il y a le danger de la folie, de la fuite en avant... de l'excès. Je dois faire avec mon énergie propre, qui est quelquefois sans repos. C'est ainsi. Je dois vivre avec moi-même. C'est pas toujours facile.
Hein.
C'est pas toujours facile. C'est certainement plus facile quand je travaille.
Alors, avec une œuvre déjà aussi imposante, Olivier Py, est-ce que vous êtes sensible aux prix, aux récompenses ?
Ah, je pense que c'est une très très grande vanité de les refuser. Et donc, il faut les accepter en souriant, en sachant qu'elles ne sont rien, mais que tout de même, les gens qui ont fait l'effort de vous la décerner, eux existent, ils sont pas rien. Et puis, ça fait toujours plaisir à ma maman. J'aime bien faire plaisir à ma maman.
Est-ce que, parmi ces récompenses, laquelle vous a le plus réellement touché ?
J'étais content d'être décoré de la Légion d'honneur. Je le dis parce que si je disais le contraire, je mentirais et ce serait vraiment une vanité. Et j'étais content pour une chose, c'est que ma maman était très contente.
Enfin, pour quasiment conclure cette masterclass France Culture, Olivier Py, là aussi question récurrente, la question de la postérité, est-ce qu'elle se pose pour vous ?
Ah oui, bien sûr qu'elle se pose. Elle se pose. On sait qu'un jour le soleil arrêtera de briller et donc Shakespeare aussi disparaîtra. Il n'y aura même plus dans l'univers de mémoire de Shakespeare et de mémoire de Mozart. Ça c'est terrible. C'est pas très important qu'on oublie Olivier Py, mais qu'il n'y ait pas quelque part dans l'univers une mémoire de Rimbaud, de Shakespeare et de Mozart. Ça me fait serrer les dents, vraiment. Et donc. En termes de postérité, je dois penser à cette échelle. Donc le fait de disparaître est moins grave. Mais enfin, il y a les livres, parce qu'il y a la souffrance du metteur en scène qui voit chaque fois ce qu'il a créé. C'est la beauté et la souffrance des metteurs en scène, des gens de théâtre, puisque tout disparaît, qu'il n'y a plus que quelques éléments de mémoire. Un peu différent aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de captations. Ça me paraît un peu étrange qu'il y ait beaucoup plus de mémoire d'Olivier Py que de vitesse aujourd'hui. Mais bon,
et encore trouve... vitesse, il y en a pas mal, et heureusement.
Encore il y en a, par rapport à Brecht, il y en a très peu. Cette technologie peut nous faire croire que nous aurons une postérité plus grande, mais tout ça est une vanité tout à fait ridicule. Il y a le livre, et le livre est comme une bouteille à la mer. Même quand il n'est pas beaucoup lu, pas beaucoup acheté, et qu'il passe inaperçu, on ne sait pas. On ne sait pas quel être un jour va le croiser, et ce que ça provoquera en lui.
Puis il y a aussi dans la postérité, il y a l'auteur, il y a le metteur en scène, mais aussi le directeur. Vous aimeriez qu'on se souvienne aussi de vous comme directeur, quand même ?
Oh ben non. Non, pas du tout.
Bah, vous inscrivez dans une histoire, ici à Avignon, notamment.
Je m'inscris dans le présent, en tant que directeur, certainement. Mais l'histoire du festival, c'est pas un directeur qui l'a fait, ce sont les artistes qui ont été présents. Donc si j'appartiens à l'histoire du festival, c'est d'abord en tant qu'artiste. J'ai été en mon âme et conscience au service du festival, parce que il n'y a rien que j'aime plus que le festival.
Mais alors, je profite un instant quand même de vous évoquer la question des captations. Moi, c'est une question qui, j'allais dire, me passionne assez, parce que oui, heureusement qu'il y a quand même quelques captations d'Antoine Vitesse, parce que du coup, j'ai pu en voir que je n'aurais jamais pu voir autrement. Vous y attachez de l'importance au travail qui est fait de réalisation sur vos propres spectacles, Olivier Py ?
Tous les spectacles du festival ont une captation, donc ils existent dans les archives. On s'est rendu compte qu'on avait une collection absolument extraordinaire qui était un trésor. C'est pour ça qu'on avait ouvert cette nef des images dans laquelle on pouvait projeter toute l'histoire du festival en images, mais qui, c'est vrai, s'arrête dans les années 70, enfin, même un peu après. Ça donne toujours une idée fausse de ce qu'a pu être un spectacle. Mais enfin, c'est là. Heureusement, c'est là. Là aussi, ce serait une vanité de dire qu'on ne s'intéresse pas aux captations et aux éléments de mémoire qu'on peut construire sur une œuvre.
Une idée fausse, mais il y a quand même des choses vraies, à l'inverse, qui passent quand même d'une captation. Vous avez l'impression que pour vous, ce serait quoi qui passe dans les captations pour les personnes qui n'ont jamais vu en vrai des spectacles d'Olivier Py ?
Vous voyez, je pense que le Tristan et Isolde qu'on avait fait avec Armin Jordan et Pierre-André à Genève est resté un spectacle mythique dans le monde du lyrique. Probablement mon plus grand succès à l'opéra. Puis c'est un succès qui n'a jamais cessé de grandir, même si les gens ne l'ont pas vu. C'est devenu un objet mythique. Il existe une captation qui m'a immensément déçu. Armin Jordan aussi, d'ailleurs. Pour moi, ce n'est pas le spectacle. Mais il continue à y avoir des gens qui sont bouleversés par ce spectacle à travers cette captation. Donc merci à ceux qui l'ont fait et qui l'ont fait comme ils pensaient qu'il fallait la faire. Heureusement, il y a ça aujourd'hui. Ça rend la vie d'un homme de théâtre, d'une femme de théâtre, moins mélancolique.
Nous enregistrions cette masterclass avec vous, Olivier Py, au cœur de ce festival d'Avignon. Qu'est-ce qui se passe pour vous juste après le festival ? Enfin, juste après, une fois que les équipes sont reparties à droite et à gauche.
J'entre dans 15 jours de silence total, dans lequel je ne peux plus faire grand-chose. Je suis comme un grand brûlé après un festival. Et petit à petit, je reviens à la vie. Mais il y a 15 jours de traversée de l'immobilité et du silence.
Merci.
Merci à
Olivier
vous.
Py.
C'était la masterclass d'Olivier Py avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.